Retrouvons maintenant notre ami Philippe Quentin pour amorcer la prochaine heure aux amateurs de sport. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Alors, je suis convaincu que tu as regardé le basket hier et la victoire des Raptors.
Quel grand spectacle, encore une fois, et ça a été un match formidable, un peu étonnant. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que les Raptors dominent autant une équipe aussi solide que celle des Warriors, mais ça a été une performance super impressionnante.
On ne les a jamais sentis menacés de perdre ce match-là hier. C'était assez étonnant, et peut-être qu'on voudra revoir Kevin Durant plutôt que tard du côté des Warriors, mais en même temps, il faut se méfier. C'est toute une équipe, puis eux autres, ils viennent d'avoir un drapeau jaune. Là. Je pense qu'on va avoir un autre type d'effort de la part des Warriors dans le match numéro 2.
Ouais, ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais tu sais, peu importe, Mario, la suite de cette série-là, je pense que ce que les Raptors sont en train d'accomplir, c'est absolument extraordinaire. Puis on le voit là, sur le terrain. Je pense qu'on est tous en train de découvrir quelle équipe magnifique les Raptors composent. Mais moi, il y a d'autres raisons aussi qui font que j'aime cette équipe-là. Et ça commence au sommet. Ça commence par le président de l'équipe, qui est un gars qui s'appelle Masai Ujiri, qui est d'origine nigérienne. C'est lui qui est le président des opérations basket et directeur général de l'équipe. Et j'ai eu l'occasion de lui parler une fois au téléphone. J'ai fait une entrevue avec lui parce que j'avais été interpellé par un texte qu'il avait signé dans le Globe and Mail de Toronto où il faisait un appel à la communauté internationale pour obtenir la libération de toutes ces jeunes filles qui avaient été capturées par le mouvement Boko Haram. Tu te souviens, en Afrique, oui. Quand c'est arrivé il y a quelques années. Et Masai Ujiri a été vraiment au premier rang pour essayer de créer de la sensibilisation autour de ce drame-là. Et moi, j'ai été impressionné par son discours humaniste et c'est pour ça que j'avais voulu l'interviewer. Puis ça a été quelques minutes au téléphone, mais c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait eu des phrases dans l'article du Globe and Mail. C'était une lettre ouverte là, qu'il avait signée. C'est un texte que lui-même avait écrit. Et il disait là-dedans que nous, de la diaspora africaine, on devait tout faire pour aider la jeunesse africaine aujourd'hui. Et tout son message portait là-dessus. C'est un gars qui aujourd'hui organise des camps d'entraînement de basket en Afrique, au Nigeria, au Kenya, au Ghana. Il est extrêmement impliqué dans tout ça. Et moi, je pense que lui, il vient d'une famille qui a fait carrière, son père et sa mère, dans le système médical au Nigeria. Il n'a pas été intéressé par cet aspect-là de la vie, lui, puis il s'est dirigé dans le basket. Son premier boulot de directeur général, il l'a obtenu avec les Nuggets de Denver. Par la suite, il a été embauché par les Raptors et c'est lui qui mène la barque à l'heure actuelle. Et je trouve que ce gars-là, c'est plus qu'un dirigeant de basket, c'est aussi un grand humaniste. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime les Raptors cette année.
Ouais, je suis content que tu nous racontes cet aspect-là de sa personnalité que je ne connaissais pas complètement, Philippe, et je suis convaincu que c'est la même chose pour beaucoup d'auditeurs actuellement à l'écoute. Mais laisse-moi renchérir sur lui. Moi, il m'impressionne comme dirigeant, et je ne sais pas c'est quoi le titre, là. Je sais que Lou Marsh, c'est l'athlète de l'année, mais le dirigeant dans le monde du sport au Canada et peut-être en Amérique de l'année cette année, c'est Masai Ujiri. Ah, ouais. Et il faut voir encore la façon dont il a, si tu veux, encaissé l'élimination hâtive de son équipe l'an passé, comment tout le monde a été déçu de l'élimination hâtive des Raptors avec DeRozan et Lowry, puis c'était un scénario de déjà-vu, et il a dit c'est moi qui va s'occuper de ça, puis on veut gagner, puis je vais replacer ça, et là, il est allé d'une série de décisions audacieuses. L'entraîneur de l'année,
c'est incroyable.
Doit encaisser, tu remercies l'entraîneur. Mettons que Claude Julien gagne le Jack Adams, là, et là, Marc Bergevin dit, ben Claude, bravo, mais là, t'es plus le gars dont j'ai besoin. C'est ça qu'il a fait.
Ça prend un cran extraordinaire. C'est comme on voit pas ça dans le sport, avoir ce cran-là de dire, hey, j'ai l'entraîneur de l'année, puis lui, il en est venu à la conclusion, ben il est peut-être l'entraîneur de l'année, mais je pense que ce qu'a conclu Ujiri, c'est qu'il a dit, il est entraîneur de l'année en saison régulière, mais quand arrivent les séries éliminatoires, il est plus entraîneur de l'année parce qu'il était très déçu des insuccès des Raptors en série.
Et il remplace par son adjoint, imagine.
Ouais.
Même pas un gars qui a tout prouvé là dans la ligue, là. Son adjoint, puis là, il enchaîne avec l'échange qui amène Kawhi Leonard à Toronto, puis tu sais que DeRozan, c'était comme le prince de Toronto, là, tout le monde l'aimait, puis lui aimait Toronto ouvertement. Là.
Exactement, il a été très déçu d'être échangé, puis en plus, DeRozan est encore sous contrat pour 2 ans, alors que Kawhi Leonard, c'était simplement l'année qui se termine actuellement. Alors, on ne sait pas pour quelle équipe il va jouer l'an prochain, c'est sûr que les Raptors aimeraient le garder, mais c'est loin d'être sûr. Alors, c'était un risque immense, d'autant plus que Leonard n'avait joué que, quoi, 9 matchs la saison précédente, à raison d'une blessure. Alors, est-ce qu'il serait capable de rebondir? Est-ce qu'il serait capable d'avoir une grande saison? Alors, à voir, franchement, franchement, le guts de faire ce qu'il a fait, Masai Ujiri, c'est absolument formidable.
Et tu parles de guts, je ne sais pas si c'est de l'insouciance ou du guts, mais l'entraîneur-chef des Clippers de Los Angeles, Doc Rivers, a vraiment vanté, a eu des propos très élogieux à propos de Kawhi Leonard dans une entrevue, mais ça a résonné fort dans les bureaux de la NBA. Ketching, une amende de 50 000 $ aux Clippers de Los Angeles parce qu'on pense que c'est une espèce de maraudage volontaire ou involontaire, que ce sont des propos qui seraient de nature à influencer la décision d'un joueur. Bon, je pense pas que ça va l'empêcher de dormir 50 000 $ pour qu'il s'assure que Kawhi Leonard entende ce qu'il pense de lui, mais il reste que ça met en perspective qu'au-delà de la finale, ça va être l'homme le plus convoité dans le monde du basket par les Raptors, mais par toutes les équipes désireuses de l'amener avec elle.
C'est sûr, puis ça va être très dur pour Toronto de le garder avec les Raptors. Je lisais dans un article d'un collègue de Toronto qui disait que Kawhi Leonard s'était acheté une maison de 13 millions de dollars quelque part en Californie, pas loin de San Diego. Et il paraît en plus que c'est un gars qui n'aime pas du tout le froid. Alors, les hivers torontois, c'est sûr que ça lui plaît pas beaucoup. Mais tu sais, on parle des décisions que Masai Ujiri a prises. Puis il y en a une autre qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la date limite des transactions, il est allé chercher Marc Gasol, un Espagnol de 7 pieds. Et encore une fois, lui aussi, c'est une histoire extraordinaire, Marc Gasol. Puis je veux la raconter, Mario, parce que c'est mon collègue Bruce Arthur du Toronto Star qui a écrit ce papier-là cette semaine. J'ai trouvé ça une lecture absolument fascinante. Alors, Marc Gasol a été extrêmement interpellé par toute la question des réfugiés qui sombrent en mer Méditerranée. Alors lui, pendant la morte saison en Afrique, en Espagne, il surveille tout ça et il a décidé l'été dernier d'aller passer 10 jours sur un bateau qui allait à la rescousse de réfugiés qui étaient sur des embarcations à la dérive.
Wow.
Et il a raconté ça au Toronto Star et c'est un récit qui est vraiment extrêmement prenant. Il a ramassé ils ont récupéré malheureusement des gens qui étaient morts, ils ont récupéré une femme qui, elle, était toujours vivante, mais il a vécu des expériences extrêmement dures émotivement et lui, il voulait véritablement s'impliquer dans le support aux réfugiés, puis ce qu'il dit finalement, nous on est tellement chanceux, puis il dit finalement la seule différence c'est l'endroit où on est, si on est chanceux ou si on ne l'est pas. Alors de voir qu'un gars de même qui gagne des millions de dollars, qui est une star en Espagne, parce que c'est un des grands athlètes en basketball et le basket est super populaire là-bas, qui est en finale de la NBA avec un grand parcours, puis qui a lui aussi ce côté très humaniste qui rejoint celui de Masai Ujiri. Moi, je trouve que ça donne un coffre extraordinaire à cette organisation-là des Raptors de Toronto.
Et juste pour en ajouter, ils ont trois gars qui s'expriment en français.
Ouais. Hein,
un Congolais, un Camerounais et puis Chris Boucher également. Puis en plus, hier, je pense que ça a plu à beaucoup de gens qui regardaient ça du Québec, qu'on consacre des lignes en français au cœur de l'hymne national canadien.
Ouais. Ça,
c'est de la grande
vraiment,
classe.
Là, ouais, voilà, exactement. Tu sais, les Raptors disent qu'ils veulent être l'équipe du Canada tout entier. Ben, hier, ils ont fait en sorte qu'ils soient crédibles quand ils énoncent ce message-là.
À quand l'Impact, l'équipe du Québec tout entier, mon cher Philippe, privé de Nacho Piatti pour peut-être le reste de la saison? On ne sait pas,
ouais,
j'espère qu'il va jouer d'autres matchs avec l'équipe. Mais ça t'a interpellé de voir autant de gradins vides. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on aborde le sujet. Tu l'as vu sur les médias sociaux, Philippe, c'est comme un sujet dont il ne faut pas trop parler. Mais comment interprètes-tu ça, toi?
Bon, d'abord, un sujet dont on ne doit pas parler. Au contraire, c'est un sujet dont il faut parler parce que c'est un problème grave pour l'Impact. Je ne comprends pas trop l'idée là, qu'il faudrait maquiller ça. Ça m'apparaît complètement hors propos. Une équipe professionnelle doit attirer des gens, doit avoir des revenus. Ça fait plusieurs fois que des messages ont été lancés par des membres de la direction de l'Impact. Joey Saputo au cours des dernières années, Richard Legendre, Kevin Gilmore également. Et là, on a même eu le commissaire Don Garber qui est venu à Montréal. Alors, j'espère que oui, c'est un sujet d'actualité. J'espère que oui, on va en parler parce que ça fait partie de l'équation. Et quoi qu'on dise, 12 000 personnes un mercredi soir au Stade Saputo en pleine saison, alors que c'est une soirée qui est, ma foi, fort correcte, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Impact. C'est certainement pas une bonne nouvelle. Je me souviens, Mario, d'avoir fait des entrevues avec Richard Legendre au début de chaque saison en 2014 puis en 2015. Puis il disait, tu sais, on a notre slogan. À l'époque où l'Impact a sorti son nouveau slogan, tous pour gagner. Et je me souviens encore d'entendre Richard Legendre me dire, tous pour gagner, et j'ajouterais, dans un stade plein. Ça, c'était ce que disait Richard Legendre. Alors ça, là, je te parle de 2015. Là, ça fait quand même 4 ans de ça. Et encore une fois, l'impact est pris avec ces problèmes-là. On n'est pas capable de bâtir une très solide base d'abonnement saisonnier. Donc, il faut se battre tout le temps pour aller vendre des billets à l'unité pour chaque rencontre. Et oui, c'est un problème parce que l'impact devra trouver une solution à ça. C'est pas comme si c'était uniquement les journalistes qui en parlaient. Là. C'est un problème qui a été mis de l'avant plusieurs fois par les plus hauts dirigeants de l'équipe, mm-hmm. dont par son propriétaire. Souviens-toi, ça fait tu viens la première fois que Joey Saputo avait fait une sortie, c'était avant les matchs de la CONCACAF à Montréal, quand il avait dit il n'y a pas de buzz.
Le buzz n'existe plus.
Le buzz n'existe plus. Ça avait créé une tempête. Écoute, il avait été interviewé partout le lendemain. Ça avait vraiment créé une commotion. Bon, puis finalement, après ça, il est arrivé des beaux moments pour l'Impact. Drogba est arrivé. Moi, je pensais vraiment que le ciment était pris puis que l'Impact s'était vraiment inséré dans notre panorama sportif de façon très claire, très solide. Mais force est de constater que non, ce n'est pas encore le cas. Et la visite du commissaire Garber il y a quelque temps à Montréal, puis dans lequel ils ont parlé du stade, puis de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour attirer plus de gens. Puis t'as Kevin Gilmore qui nous dit, hey, quand il a été nommé Montréal, c'est un grand marché, il faut qu'on agisse comme un grand marché. Mais là, il va falloir que tout à coup, tout ça, ça se démontre dans les gradins. Et l'Impact, dans le moment, fait le travail sur le terrain. C'est une fiche qui est, à mon avis, au-delà des espérances pour une équipe qui a commencé avec autant de matchs consécutifs sur la route, parce que c'était un piège.
En plus déprimé de son meilleur joueur plus souvent qu'autrement.
Oui, voilà, exactement. Mais là, tout à coup, il faut qu'il y ait des gens, parce que ignorer le problème, là, c'est pas une solution. Une équipe, ça doit attirer des gens. Puis, tu sais, à Montréal, on est les premiers à l'heure actuelle à dire, hey, à Tampa Bay au baseball, ça va pas bien. Là. Ils ont 6000 personnes. Alors, peut-être c'est signe que ça va pas bien. Ben, on peut pas ignorer ce qui se passe également à l'Impact. Et moi, je trouve qu'il va falloir véritablement qu'ils se donnent un coup de barre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement, mais là, je trouve que ça a envoyé un très, très mauvais signal mercredi.
Pas tout à fait une minute pour parler des Bruins et des Blues. C'est fou comment une défaite ou une victoire influence les perceptions et les opinions. Et là, ben, on se dit que c'est un gros test pour les Bruins que le prochain match, Philippe.
Oui, tout à fait. Moi, je dois t'avouer que je pensais que les Bruins étaient tellement revenus forts après les 15 premières minutes du premier match là, où les Blues avaient dominé avec 2 buts. Puis là, les Bruins avaient enclenché une vitesse supérieure. Ils avaient vraiment été supérieurs. Je pensais qu'ils allaient gagner les Bruins le deuxième match. Puis que, bon, après ça, t'en gagnes 1-2 à Saint-Louis. Puis l'affaire est à peu près entendue. Mais franchement, les Blues, encore une fois, ont montré extrêmement de coffre pour revenir. Ils ont joué du gros, gros hockey à Boston. Et là, oui, ce sont les Bruins là, qui se retrouvent. Il faut qu'ils en gagnent une des deux à l'étranger. Alors, gros, gros défi pour cette équipe-là que plusieurs, dont moi, croyaient capables de survoler un peu cette finale de la Coupe Stanley.
Non, on va avoir une finale, on dirait bien.
Oui, on s'en a l'air qu'on va avoir une finale, ouais, exactement.
Philippe, un gros merci encore une fois. C'est toujours un plaisir. Bonne fin de semaine, puis on se reparle lundi.
Excellent, merci Mario, bon week-end.
Bye-bye, merci beaucoup Philippe, et à bientôt. Dans quelques instants, on enchaîne avec un homme que je considère qui a été comme une espèce de père du basket au Québec, nul autre que Bob Sicomo, avec nous en entrevue sur la folie entourant les Raptors. À tout de suite.